Du 3 au 20 septembre 2007, la Cité des Arts de la Rue accueille le sculpteur sonore Jacques Rémus pour mener une masterclass avec les apprentis de la FEAR, formation avancée et itinérante des arts de la rue, dans les locaux et avec la collaboration des ateliers Sudside. La grenouille est allée y jeter deux oreilles pour vous donner à entendre le travail en cours et vous faire rencontrer Jacques Rémus, les apprentis et les intervenants de ce stage.
Ouais, restez pas dans l'axe du... Il va pas se détacher. Ah là, c'est mystère avec boule de gomme. Allez, il descend chez moi. On va voir si c'est...
T'as vu, il y a un petit trou. Faut que le sol qui soit...
Ouais, il faut bien fixer.
Moi j'ai autre chose à faire.
Non mais mets quelqu'un là.
C'est bon, c'est tout. 5, 6, 7, 8. Ok, 4 machines, 4 ensemble.
Et 4 ensemble, d'accord.
Donc 4 pour l'autre, bref. Donc ça c'est incontournable. Ça c'est incontournable.
Ouais.
On peut le déplacer ou pas?
On peut le déplacer.
Mais c'est pas
oui,
au
clair.
Pour moi il est très bien. Pour moi il est très bien.
Okay. Hein.
Et donc il reste les machines à air.
Oui.
Qui sont de deux sortes, les sirènes et les tuyaux machin,
oui.
Et puis les contrebasses.
Mmh.
Par rapport au son, les contrebasses, c'est ce qu'il y a de plus fragile.
Ouais.
Je pensais les mettre sur des tables ici.
Ouais.
Et par contre, là où on risque d'avoir besoin des étaux, mettre les machines à air, donc avoir un déport d'air, dans le coin opposé. Les sirènes vont donner sur l'extérieur et les machines à air pourront.
Est-ce que c'est faisable? Comme tu verrais, les machines à air là-bas.
Ouais.
Hop.
C'est un choix, mais
je réfléchis.
Ce point-là, on n'y touche pas.
Ouais. Parce que les machines, enfin, c'est par rapport à l'alimentation en air.
Voilà.
Là, il y a des descentes, ici, là, là-bas, mais pas dans ce coin.
Pas
ça, c'est le
coin.
Seul endroit qui n'est pas alimenté en air.
Ouais, mais si on les met là, ça va se bouffer avec les tuyaux à feu. Parce que là, les tuyaux à feu, on ne peut pas le bouger. Donc les machines à air, elles seraient mieux là.
C'est très bien, là.
Parce que... On les fait aussi des petits, non?
Vas-y, on peut faire les petits parce que là, là la personne s'est prise.
Ok, on peut faire les petits maintenant.
Les barres, tu les as mis.
C'est vrai.
Ouais,
alors,
on fait la chaîne quand même.
Qu'est-ce qu'on fait? On fait deux mêmes?
Non, un barre.
Ok.
Un début.
Ok. Alors, donc, ça c'est pour le grave, le dernier le grave.
D'accord.
Et ça, ce sont les trois pour le.
Ok, ça c'est la bonne torsion, ça.
Ouais, parce qu'on a essayé.
Okay. On fait comme tout à l'heure, tu passes là.
Ouais.
On fait le jus.
On regrouperait l'air d'une manière un peu bizarre, plutôt de ce côté là-bas. En déplaçant les établis s'il y a besoin pour les sirènes.
Mmh.
On aura une proximité entre les sirènes et la machine à tuyaux. On aurait les contrebasses qui seraient sur cette grande table mise par là. On aurait les carillons qui seraient là. Le grand cistre qui c'est là. Et tout l'espace là pour les tuyaux à feu. Ah, ce sera à peu près le truc. Donc c'est pour se mettre dans l'idée que les machines à air, elles vont pas être là, mais elles vont être là-bas.
Ouais. Par contre, pour les sirènes, les sirènes, faut trouver un truc parce que ça va même là-bas, ça risque de cacher.
L'écriture musicale, c'est pas rien. Hein. Tu vas pas faire un truc qui va cacher les sons. Si tu le sais que ça va cacher les sons, tu vas les mettre en avant.
Mais au niveau de l'acoustique, il y a.
Mais ce qui me plaît, c'est que les sirènes, elles vont donner sur l'extérieur.
Ouais, ça va faire l'appel qu'on voulait faire avec le.
Ça n'empêche pas, ça n'a rien à voir. Mmh. Ok, c'est bon.
Bon, bah c'est bon.
Hein. C'est marrant votre truc. Mmh. Bon, une
question ? Ouais, c'est fini là.
Vous voulez les mettre comment les tuyaux comme ça ?
Non.
Attends, mais. Et ça, c'est une machine. Les tubes à air contenu.
Il y a un gant
aussi. Un gant ?
Sous le robe.
Ah, je t'en aurais pris les deux. Hein.
Ah, c'est un petit celui-là. Ah oui, il y en a trop peut-être.
Ouais.
Hein?
Alors, ça, c'est pas bien.
Ah, tu veux transvaser à la barbare?
Non, c'est pas bien. Tiens. Donc ça, c'est les petits.
Voilà. Un, deux, trois, quatre,
cinq, six, sept,
encore. Erreur.
C'est erreur.
Jacques Rémus, à quel moment et dans quel contexte est-ce que tu en es venu à réaliser des machines musicales ?
Eh bien, en faisant un résumé rapide, j'ai effectivement commencé dans ma vie professionnelle en tant que biologiste, chercheur et développeur sur les fermes sous-marines. Donc j'ai fait de la recherche fondamentale et du développement. Et puis, étant attiré par d'autres univers, disons, j'ai... commencer ou compléter, ça dépend quelle matière précisément, des études en musique, en musicologie, en ethnomusicologie. Et ce que j'avais fait auparavant, c'était que durant mes premières études, j'avais travaillé sur la musique électroacoustique au GRM. Et donc, j'ai été pendant quelques années à être à la fois instrumentiste, donc dans des groupes de rue, des groupes d'improvisation, de jazz, dans des groupes de musique comme Urban Sack, et dans lequel j'étais un élément très actif pendant les premières années de l'existence de ce groupe. Et puis, en même temps, j'ai commencé à développer des choses qui ont été poursuivies par d'autres après, mais qui étaient assez originales à ce moment-là, qui étaient le fait d'initier des très jeunes enfants à la fabrication d'éléments sonores, à la lutherie, d'instruments, et donc de les motiver sur l'utilisation de ces instruments, donc l'apprentissage de la musique. Puis, ces choses-là me prenant beaucoup d'énergie, j'ai complètement arrêté, je me cherchais toujours, et après divers voyages, j'ai tout arrêté,
Et j'ai commencé à me lancer dans ce que je fais actuellement, c'est-à-dire la construction de sculptures sonores, de machines musicales et l'écriture pour ces machines de temps en temps, mais aussi pour d'autres, c'est-à-dire la télévision, le théâtre, des choses comme ça, le cinéma.
Tu as pour ça monté une structure qui s'appelle, je crois, Méca Musique. Ces mécaniques musicales, elles sont très anciennes. Je crois qu'on en retrouve qui datent de la plus haute antiquité. Peut-être, est-ce que tu pourrais nous faire un petit historique de la musique mécanique ?
Alors, je crois qu'à partir du moment où le moindre mécanisme a été inventé par l'homme, j'entends des pales dans une chute d'eau, des choses comme ça, le bruit produit par le mécanisme a dû être mis en relation avec les musiques humaines qui devaient exister bien avant, bien sûr. Donc la moindre mécanique induit forcément, je pense, une envie de musique mécanique. Donc des choses ont été développées, effectivement, dont on a retrouvé des traces, il y en a peut-être eu d'autres bien avant, en particulier sous les Grecs ayant colonisé l'Égypte, donc avec Hérodote et Ptolémée, etc. On a eu des orgues qui étaient manipulés, comme l'on fait à l'heure actuellement, une sorte de clavier très simple, et en même temps un mécanisme hydraulique qui pouvait faire bouger les touches de ce clavier, donc déclencher l'orgue. On a appelé ça des clepsydres un peu par erreur, parce que c'était aussi les appareils qui servaient à mesurer le temps avec l'écoulement de l'eau. Et ça, c'est un petit peu les prémices de ce que l'on a, en passant par les carillons dans les Flandres et les choses qui sont à la fois jouées par l'homme et des mécanismes automatiques, et ce qu'on a sur les ordinateurs à l'heure actuelle, la possibilité de jouer une musique sur un synthétiseur avec un clavier, ou de la voir sur un séquenceur qui ressemble à ces choses très primitives qu'on a retrouvées en Grèce il n'y a pas très longtemps, au nord de la Grèce, ce qui semble être ces choses décrites dans des bouquins qui datent donc des Ptolémées. Et on a cette possibilité de jouer en direct ou de jouer avec un programme préenregistré des choses qui ne sont pas des instruments humains, pour humains, je veux dire, mais qui sont des choses à commande mécanique. Alors maintenant, bien sûr, on a toute la robotique qui permet de faire des choses complètement différentes, mais le principe est le même.
Au 19e siècle, c'est le siècle du piano, et très rapidement aussi, on développe des pianos mécaniques. Je crois qu'il y a même des compositeurs qui ont écrit des pièces assez virtuoses et qui sont totalement dédiées à ces instruments qu'étaient les pianos mécaniques.
Alors, effectivement, au 19e siècle, on sort du cabinet de curiosité, des mécanismes très, très, très beaux avec des automates et qui sont aussi des développements sonores, à des choses qui vont avoir tendance à épater le passant, bonifier le bourgeois et surtout remplacer les musiciens. Donc les orgues mécaniques, les choses comme ça, et les pianos effectivement deviennent de plus en plus performants, avec des rouleaux dans lesquels on arrive au bout d'un moment à avoir de l'expression, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas simplement une note toujours pareille elle-même, mais une note plus ou moins forte. Et on a effectivement des enregistrements fabuleux de pianistes qui ont disparu, dont on n'a pas d'enregistrement audio, mais qui sont enregistrés sur ces choses-là. Et au milieu du XXe siècle, il y a plusieurs compositeurs, dont un fameux chez les connaisseurs, qui s'appelle Colon Nuncaro, américain mais émigré au Mexique, qui a fait l'essentiel de sa production de musique sur un ou des pianos jouant une musique faite pour des mécanismes se débarrassant des contraintes des 10 doigts et de la vitesse de l'homme. Donc, musicalement, des choses extrêmement fortes, très belles, et qui sont une référence et une source d'inspiration pour tous les gens qui sont dans la matière dans laquelle je suis.
Dans les machines musicales que tu conçois et que tu réalises, on trouve à la fois des matériaux de récupération et puis des interfaces qui parfois font intervenir de très très hautes technologies. Dans ton travail, il n'y a pas de contradiction entre d'un côté la récup, on pourrait dire, et de l'autre la technique la plus aboutie et même vraiment des techniques de recherche.
Alors, je veux dire que mon propos est avant tout d'arriver à faire avec des matériaux, avec de la matière, des choses qui soient commandables et qui soient, qui développent des énergies visuelles. Donc pour ça, il faut que j'ai des sons qui me plaisent, il faut que j'ai des mouvements qui me plaisent et que le tout soit cohérent sur la notion de fonction qui crée la forme et en même temps une esthétique qui fasse que y a quelque chose qui se passe au niveau des gens, enfin, ça serait long à expliquer. Et pour ça, je ne fais jamais utilisation de récupération. J'ai fait des projets avec des méthodes de récupération sur des commandes. C'est parce qu'on me demandait d'aller dans cet univers. Ce qui a été, eu pour conséquence, pour moi, de toucher différemment un public. C'est quelque chose que j'ai trouvé extrêmement intéressant, mais ce n'est pas ma démarche. D'origine, j'ai fait donc un orchestre de machines à laver, qui est la chose la plus connue, avec 32 machines à laver dans des grandes cages qui peuvent se disposer un petit peu comme l'on veut. Et c'est vrai que c'est des vieilles machines à laver qui ont été déshabillées, décortiquées, dont on voit le moteur, le tambour et toutes les fonctions primaires, des machines à laver. J'ai fait des choses avec un vieux frigo, des choses comme ça, mais à chaque fois c'était sur un thème de commande. Mais de moi-même, et ce que je fais ici à Marseille, s'il y a de la récup parce que ça convient exactement au truc, que c'est le truc qu'il y a, mais c'est pas parce qu'on l'a sous la main. Moi, c'est pas ma démarche. Je veux tirer de la matière, de la robotique industrielle des tournées et des énergies industrielles, des choses qui sont le plus en adéquation avec le propos qui est à la fois sonore, musical et visuel.
Des énergies différentes que tu mets en œuvre, des énergies pneumatiques, des énergies électriques, le mouvement et l'énergie, la transmission du mouvement et de l'énergie, aussi bien au plan humain qu'au plan mécanique, c'est quand même l'essentiel dans ton travail, l'essentiel de la recherche que tu mènes.
Oui, enfin, disons que c'est un élément qui est important pour moi, c'est qu'à partir du moment où je suis plus sur une machine qui va essayer d'imiter le jeu humain, et que j'ai à ma disposition des énergies qui peuvent être considérables, que je reste dans un domaine purement acoustique, c'est-à-dire que je ne me sers pas de haut-parleurs et d'amplification, je veux qu'on voit la source du son et qu'elle soit réelle, j'essaie d'utiliser donc des gros ampérages, j'ai des machines qui débitent des 100 ampères, j'ai des compresseurs donc, qui utilisent de l'énergie pneumatique haute pression, c'est simplement en voyant des chaînes de montage dans les usines de voitures que j'ai eu ces envies-là, il va y en avoir ici, et là je m'intéresse à l'énergie hydraulique qui crée des mouvements, même si elle est de nature électrique, puisque pour des raisons écologique, on recycle l'eau sans arrêt, comme dans une fontaine. Donc, la visualisation des énergies sonores, c'est l'un des trucs qui mène à l'œuvre. Mais l'œuvre elle-même, elle est aussi faite d'un travail de lutherie, qui est des fois très proche de la lutherie traditionnelle, des fois très originale, parce qu'utilisant à la fois ces énergies que n'avaient pas les luthiers jadis, et des matériaux, bien sûr, qu'ils n'avaient pas. Donc, ces deux choses-là, les énergies, leur visualisation et la lutherie, sont rassemblées au niveau organique par le fait que tout est informatisé. Voilà, c'est un petit peu la description de trois caractéristiques de ces boulots.
Ce n'est pas la mécanique pour la mécanique. Tu n'oublies jamais que sa destination finale, c'est de produire de la musique.
Oui, et je ne suis pas très... Ce que je fais au niveau de mécanique est toujours très simple. C'est des mouvements, les mouvements les plus compliqués, mais qui sont magnifiques, c'est les mouvements de Biel-Manivelle, où on a quelque chose qui tourne et qui se transforme en linéaire, ou le contraire, comme dans un piston de locomotive. Hein. Donc ça, c'est des choses qui sont assez amusantes. Je ne fais pas des choses avec des engrenages très compliqués, etc., parce que d'abord, c'est Si j'avais des choses à faire comme ça, c'est pas de la récup que je prendrais, je les ferais faire ou je les ferais. Et donc j'en ai pas vraiment besoin. Je fais des multiplications. S'il y avait des courroies crantées qui permettent de garder la rigidité du tempo et des choses comme ça entre des choses différentes. Mais c'est toujours très simple à comprendre. Ça se voit toujours, c'est jamais caché et ça participe, mais je crois qu'il y en a rarement des qui sont compliqués, de la sculpture cinétique qui existe depuis les années 50. Quoi.
À propos de transmission, tu viens ici transmettre ton savoir. Quelques mots sur les projets que tu as proposés aux étudiants pour leur réalisation.
Alors, bon, pour moi, c'est une première. Je n'ai jamais fait ça. Bon, pompeusement, ça a été appelé masterclass, ce qui sous-entend le grand maître qui vient enseigner essentiellement un instrument. Donc là, c'est pas ça, c'est un savoir au niveau de toutes ces technologies, mais axé sur deux préoccupations esthétiques, qui sont donc l'écriture musicale et, je dirais, l'écriture scénographique aussi bien que cinétique, que j'essaye de faire passer à des gens qui sont, je les découvre, passionnés par ce que j'aurais proposé. Bon, ben, je fais ça peut-être un peu maladroitement, parce que c'est la première fois que je fais ça. C'est pas quelque chose auquel je suis habitué, donc ça me prend beaucoup d'énergie. Et donc j'étais amené à leur enseigner ce que j'ai appelé le retour aux fondamentaux, c'est-à-dire les bases de l'acoustique, les bases de l'écriture musicale, les bases de l'électricité, de l'électromécanique, de la sécurité, de ces choses très très techniques aussi bien que de la scénographie et de la pensée du rapport au public, de la pensée par rapport à ce que c'est quelque chose qui se déroule dans le temps de manière infinie, environnementale, ou si c'est quelque chose qui a un propos, etc., etc., de les faire réfléchir là-dessus et de leur donner très vite les moyens informatiques de tester ça, à la fois en dessin et surtout en production de son.
La pédagogie, je crois, ça n'est pas quelque chose qui fonctionne à sens unique, c'est un échange. Qu'est-ce que les apprentis de la FEARTE ont apporté dans cette masterclass ?
Alors, c'est pour moi un peu tôt pour le dire. Pour le moment, c'est à la fois positif et en même temps, j'ai l'impression de m'être un petit peu vidé. Pour la bonne raison, c'est qu'il y a pour moi, c'est pour ça que j'ai jamais fait d'enseignement, une antinomie entre le fait de donner un savoir et le fait de faire la création. Cette antinomie n'est pas forcément intellectuellement une contradiction, mais pour moi, c'est un empêchement physique. Mes forces se sont démultipliées. Tous les jours précédents, donc ça fait maintenant presque 2 semaines, et on n'a plus que 3-4 jours pour finir, j'ai été à donner des cours que je n'avais jamais donnés. Donc je ne sais pas du tout ce qu'aurait fait un enseignant professionnel par rapport à ça. Et l'après-midi, je errais comme une épave, étant obligé des fois de faire la sieste, ce que je n'ai pas l'habitude de faire, pour simplement leur dire bah, il faudrait faire ceci, cela. Bon, c'est vrai qu'avec mon assistant, tout ce qui a été pédagogique au niveau de la lutherie, c'était assez bien préparé, donc ça s'est bien passé. Puis après, on a été sur les affres de la page blanche au niveau de la création. Bon, c'est vrai que je suis venu avec des idées précises, qu'on va développer comme on va pouvoir, que ça a été enrichi par quelques remarques des étudiants ou modifié, et puis ça s'est confronté à la matière, c'est-à-dire aux éléments qu'on pouvait d'abord acheter par rapport au budget et qu'on avait disponibles ici.
En fait, on s'est lancé dans plusieurs machines, donc les carillons. Nous, on va faire avec Rémi qui est là. Moi, je fais les sirènes. Voilà, là-bas, tu vois, il y a 2 sistres. Donc, en fait, il y aura des tiges avec des lamelles métalliques à l'intérieur de ça. Et par l'intermédiaire d'un piston, ça va faire ce mouvement-là, tu vois. Donc, ça va être une percussion. Là, il y a tout le travail avec l'air comprimé. Donc, on va injecter de l'air dans les tuyaux. Et du coup, ça va les faire résonner avec des notes dont on va pouvoir faire des mélodies. Il y aura tout un travail qu'on n'a pas encore commencé, mais sur les pyrophones. C'est en chauffant un tube et en le mettant dans des conditions particulières, on obtient un son en fait. En fait, on le chauffe quand il est à l'horizontale, et quand on le bascule à la verticale, il y a un appel d'air Parce qu'en fait, il y a une différence de température entre le bas du tube qui va être super chaud et le haut qui sera super froid parce qu'on va mettre une grille en fait pour maintenir la chaleur dans le bas. Et à ce moment-là, il y a un son super bizarre et super beau qui apparaît. Et...
Ça, donc je m'appelle Antoine, je bosse avec tout le monde. Bon, je bosse sur un système d'orgue qui marche avec de la chaleur, en fait, avec des différences de chaleur. Donc le pyro. Pyrophone, sorte de pyrophone. Et bon là c'est la conception, donc je suis obligé, on m'a fait une maquette, donc tu la vois là. Et je vais essayer de. Enfin faut que je fasse les calculs pour. Faut que je calcule le débit de ferraille qu'il va falloir pour le monter quoi.
Tu peux me décrire un petit peu la maquette ?
Bah, t'as deux trépieds avec en fait un tube, le tube résonant sur lequel on va jouer qui est en balancier avec des poulies et un seau qui, en fait c'est un contenant que tu remplis d'eau. Quand il se remplit d'eau, ça fait basculer le tube, ce qui fait que du coup il est en position résonante. Il faut que je rajoute un système pour pouvoir fixer le crameur et l'arrivée d'eau.
Le crameur, ça va être quoi?
Le crameur, ça va être je pense un chalumeau de oxyacétylène.
Miguel. Quoi, t'avances la butée, tu recules la butée.
Alors là, il recule la butée.
Et le tchin ou les bois.
Et le tchin ou les bois présente. Le carillon magique.
Bon, alors on a construit un carillon. Voilà. Donc des tubes accordés sur une gamme chromatique, donc 12 demi-tons, qu'on va ensuite installer sur cette structure-là, qui était à la base pas fait pour ça, mais on dit tiens, c'est joli, on va le faire, tu vois. Et après, avec des électro-aimants, donc, là le système qu'on a fait avec des électro-aimants, c'est pour pouvoir les commander, les piloter à partir d'un clavier MIDI, relié à Max, ou enfin là ça sera Max en l'occurrence. Du coup, on peut piloter et jouer des morceaux comme ça.
Mais en fin de compte, pendant la performance, vous serez aussi en train de jouer véritablement, il y aura un geste sur le moment.
Alors là, pour l'instant, je ne sais pas exactement. Je pense qu'il y aura pas mal de pilotage automatique et qu'après, nous, on pourra intervenir dessus. Je ne sais pas encore. Ou bien ça, ou bien... Enfin, je pense qu'il y aura un mélange de toute façon de ça. Après, il y a des gens qui jouent des instruments aussi enfin pas mécanisé quoi, donc je pense qu'il
est
qu'il y aura ce mélange là.
L'idée c'est pas d'avoir des machines qui marchent toutes seules.
L'idée c'est ça aussi, ouais. L'idée qu'on... ouais voilà, sur ce qu'on a bossé c'est ça, ouais, c'est des machines qui voilà, tu peux rester, elles peuvent rester 10 ans en expo et voilà, et ça marche quoi. Et justement on se dit que ça peut être bien d'intégrer du vivant.
Bonjour, moi je suis Fefe, Federico, je viens de l'Italie. Et je travaille surtout dans un petit cirque. Et maintenant je suis en train de construire un cistre qui ça marche avec deux vérins, avec de l'air comprimé. Et ce sont deux structures qui ressemblent un peu à des ailes. Et maintenant, on va voir si marche ou pas. Parce que pour faire les sons, on a des matériels qui c'est pas très sonore, mais on a cherché de trouver une manière pour que ça marche.
À la fois, c'est un instrument qui est vachement ancien. Il y avait pratiquement la même chose dans l'Antiquité.
Ouais.
Mais sauf que là, il est animé par une énergie hydraulique, et commandé peut-être par un ordinateur.
Commandé par un ordinateur, ouais. Et... nous ne savons pas la vitesse de ces vérins là, donc peut-être qu'on a un son très très lent, quindi tchou, 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 peut-être. J'espère que c'était un peu plus rapide parce que les sistres, en effet, j'aime bien quand ils sonnent. Et à voir, on va essayer.
Chacun des carillons, ça correspondra à une touche du clavier.
Voilà, chacun des carillons a
tonalités différentes.
Il y en aura combien en tout ?
12 là, il y en a. Et plus ils sont petits, plus ils sont
aigus.
Bravo.
Alors ce qui est vraiment, c'est quand tu... Ah, fais l'une des mots quand tu les jettes par terre. Là.
Bah, viens, on le fait. Dis-moi, attends, on va te faire le concerto.
Enseignant à l'École d'art d'Aix-en-Provence et cofondateur de Locus Sonus, laboratoire de recherche sonore, était invité à présenter son travail autour de la conception de machines sonores dans le cadre de cette masterclass dirigée par Jacques Rémus. Peter nous livre quelques réflexions passées à la moulinette du réseau téléphonique. Bernard Stiegler, qui est l'ancien directeur de l'IRCA, mais l'actuel directeur du développement culturel de Beaubourg, évoque dans son site Ars Industrialis l'idée que le modèle classique de société industrielle est en train de s'effondrer et qu'il doit laisser place à une nouvelle politique industrielle de l'esprit. Du moins, c'est comme ça qu'il l'appelle. Alors, dans un entretien qu'il m'a accordé il y a quelques mois, il appelait les artistes à réinvestir les domaines de l'économie et de l'industrie pour les revivifier. Je voudrais savoir ce que tu en penses, et plus généralement sur les rapports entre l'art et l'industrie.
Oui, je trouve que la réflexion qui développe, en tout cas, il est assez intéressant. C'est-à-dire que ça dépend, comme je dis, ça dépend de ce qu'on entend par l'art. C'est-à-dire que si on n'entend pas l'art, l'expression individuelle des espaces créatifs, c'est on est en plein dans une industrialisation de cette chose-là, avec YouTube, MySpace, tous les systèmes, des principes participatifs, et même inclus sur la manière dont des gens s'occupent de leur look vestimentaire, de toutes sortes de choses. On est en plein dans des gens qui font de la musique, etc., etc. Enfin, on est en plein dans une démocratisation des modes d'expression qui permet une industrialisation effectivement de ces choses-là. Maintenant, c'est ce que j'entends quand moi je dis que l'art doit, dans ce cas, passer ailleurs. C'est-à-dire que je pense que le rôle de l'art est contraire à la culture, si on veut, et de chercher sur des terrains vierges. Donc, et quelque chose qui a été accepté, enfin, qui est dans une espèce de normalisation d'une esthétique qui est normalisée, ne peut plus être une forme artistique. Voilà. Donc, mais ça, c'est presque plus un point de vue sur ce que c'est que l'art que ce qui est en train de se passer dans l'espace créatif ou artistique aujourd'hui.
Dank u. Opnamen van u worden bewerkt door de computer.
Un autre philosophe, décidément, Jean Christoffel, dit à propos de ton travail, aussi élaboré ou au contraire aussi bricolé qu'elle puisse paraître, ces pièces, donc les tiennes, s'inscrivent toujours dans le processus d'une recherche, le mouvement d'une démarche dont elles sont les étapes et les témoins. Cela donne aux différentes pièces leur statut véritable, qui est moins celui d'œuvres achevées et détachées comme des objets, que des moments qui répondent à des hypothèses provisoires et font retour sur la progression du travail. Alors Peter, les machines que tu élabores entretiennent des rapports très complexes avec le temps. Parfois travaillent sur le temps réel en réseau, parfois travaillent sur l'accumulation des strates de temps. En tout cas, la temporalité est toujours très présente. Est-ce qu'on pourrait dire que tes machines sont des machines à explorer le temps ?
Oui, peut-être en quelque sorte. En tout cas, sur la question de ce processus, cette notion de processus, effectivement, je suis beaucoup plus dans un principe de processus que dans un principe de production d'objets. C'est-à-dire que bien que je produise des objets, en général, c'est des objets qui ont une fonction et que je vais utiliser à un moment donné pour faire des choses, et puis je vais réutiliser, peut-être modifier avant de réutiliser, revisiter, etc. Donc, je ne sais pas si ça c'est une façon de travailler le temps, pas forcément, c'est plus peut-être une question d'un mode de vie ou un regard sur les choses.
En tout cas, il y a une complexité dans le rapport au temps qui va bien au-delà du battement ou de la rotation d'une roue, d'une machine classique, on va dire.
Bien sûr. Mais ça, c'est aussi, je pense, dû au fait de travailler, dû au fait que je travaille avec le son. Et le son est par excellence le médium qui traduit le temps et donc qui mène pratiquement obligatoirement à une réflexion sur le temps. C'est-à-dire, on ne peut pas faire un arrêt temporel sur un son. On peut avoir un enregistrement qu'on peut réécouter, bien entendu, mais même lorsqu'on on écoute cet enregistrement qui se déroule, ben, on va toujours être dans des... On va avoir autre chose qui se passe en même temps qu'il est en train de se dérouler. Tandis qu'on peut avoir une image qui est figée à un moment donné et qui reste dans une place fixe. Donc, du fait de me retrouver à faire un travail qui vient entre guillemets de la tradition des arts visuels ou des arts plastiques, c'est-à-dire que dans des espaces d'exposition, d'installation, des endroits où on a tendance à mettre quelque chose pour une certaine durée, mais travaillant avec le son, effectivement, c'est quelque chose qui mène à comme vous dites, peut-être des machines à remonter le temps.
Their fault. It's their fault. Because the terrorists are trying to destroy the corporations. Their fault. It's their fault. It's their fault. It's their fault. If you saw the web, you'd see how beautiful it is. Their fault. It's their fault. You see, you have to cuff them. It's their fault. You have to cuff them. Their fault. It's their fault. You have to cuff them and put them in jail. It's their fault. If they step out of line, you have to target the Temple Mount because it's a terrorist center.
You have to find the weapons and infrastructure.
We have to level it.
They have us tagged. It's natural. Protect the nation.
You see, Artane will take you to heaven. Artane is Atari. Atari takes you to heaven. Artane takes you to heaven. Atari will make you a killer. Killer is a Christian soldier. A Christian soldier is a killer. A killer is an Artane soldier. George Bush is an action figure. Schwarzenegger protects SUVs. It's a battle between good and evil. It's a battle between the NSA, the CNA, the NSA, the CIA. It's a battle between the CNN, the BST. It's a battle that's going straight. It's going good. We're winning the war. We're on the right side. We're on the right side. We're on the right side. I believe in God. I believe in Jesus Christ. I believe in George Bush. George Bush will take me to heaven. George Bush will take me to heaven. George Bush will take me to heaven in an SUV. George Bush is coming to take me. God is coming to take me. I believe in George Bush. I believe in God. The Temple of Mount and the Holy of Holies has been revealed to me on the web. It's in the cell phones. It's in free speech. It's in free speech for corporations. Technology is the way. Technology will take you there. God. You have to believe in technology. You have to believe in target acquisition. I believe in target acquisition. I believe in communication. I believe in God. It's their fault. We have to protect the nation. It's a new world order. God. It's free speech. It's free speech. It's free speech.
God.
On l'a évoqué tout à l'heure à propos du devenir de l'industrie, elle est en ce moment en train de subir de profondes mutations. Aujourd'hui, on assiste à de nombreuses déconstructions de modèles industriels. On parle d'économie de l'immatériel, de dématérialisation des flux et des services. On voit apparaître des espaces et des mondes virtuels. On parlait tout à l'heure de YouTube et de Second Life. On voit se développer des nanotechnologies. Bref, les machines se font de plus en plus discrètes et peut-être de plus en plus efficaces. Est-ce que ton travail et l'évolution de ton travail, notamment en passant de la réalisation de machines mécaniques de plus en plus en allant vers un travail sur les flux, sur des streaming, est-ce que cette évolution de ton travail est le reflet de l'évolution du monde et peut-être particulièrement de cette industrie de plus en plus immatériel?
En tout cas, je travaille aujourd'hui, ou nous travaillons aujourd'hui avec Locusonus, donc le groupe de recherche avec qui je travaille sur ces questions, beaucoup.
Les machines sont toujours aussi visibles et audibles, mais elles n'ont plus la même forme, et on pourrait dire qu'elles sont aujourd'hui nulle part et partout.
Certains.
Discrètement installées dans notre quotidien, comme dans Big Brother.
Oui, enfin bon, en même temps, je pense que on doit faire face à nos corps de toute façon, malgré tout, même dans cet âge du tout virtuel, on a bien besoin de mettre nos corps quelque part, et l'endroit où les flux prennent à un moment donné une forme physique est aussi important pour moi que les flux eux-mêmes. Et en même temps, je pense que c'est effectivement extrêmement important de s'occuper de ces espaces qui sont en train de s'ouvrir, d'y réfléchir à qu'est-ce qu'il est en train de se passer, d'essayer peut-être d'établir un dialogue critique avec ces nouvelles formes qui sont en train d'apparaître. Et puis, bon, ça me fascine aussi, je dois dire.
Sur le même chalumeau. Non, parce qu'il y a 8 chalumeaux, donc il y a autant de chalumeaux que de machines. Ah. Donc il va les mettre côte à côte, je pense. Hein. Là, c'est les 3 là.
Les chalumeaux, montre-moi où ils sont les chalumeaux. Là, on en voit là, non?
Non.
Il s'est posé au sol, c'est comment?
Je sais pas. Ah, oui. C'est devant, en tout cas, c'est devant ce tube.
Bon, ben, en tous les cas, ça, c'est pas la peine. C'est pas la peine.
Moi, la lueur du chalumeau, elle fera plus bel effet.
D'accord. Donc ça, celle-là, ça s'appelle, c'est la 8.
C'est la 8.
C'est la 2.
Ça, ouais, exact.
Alors, qu'est-ce que tu sais d'autre encore?
Je sais tout, on en était arrêté là.
Vous avez fait que 2.
On avait fait que 2.
Ok, bon.
Ah ben, on en était sur celle qui va à la place du compresseur.
Michel Crespin, fondateur de la FEAR.
Michel Crespin, bonjour.
Oui, bonjour.
On arrive presque au terme de cette formation. C'est un moment un petit peu fébrile, des derniers réglages sur les machines.
On est loin du réglage.
Qu'est-ce que vous avez pensé de cette formation et de ces réalisations ?
Déjà, on est loin du réglage. Hein. On est au contraire dans cette phase toujours critique d'une séance de travail qui dure 3 semaines. Et aux 2/3, c'est là où la prise de conscience entre les idées qu'on a commencé à développer, qu'on a commencé à réaliser, et puis le principe de réalité de l'échéance de jeudi prochain. Donc il n'y a plus que 3 jours de travail, on est vendredi, et on s'aperçoit qu'il va falloir, il va falloir prendre des décisions. Voilà. Et c'est une des choses, d'ailleurs, qui est inévitable. C'est dans le processus de formation, cette prise de conscience entre une idée, le développement de cette idée, sa fabrication et l'échéance ultime de la monstration, qu'elle soit une fin d'atelier ou que ce soit même un spectacle, il y a un moment donné où les boulons doivent, et des décisions des fois drastiques et terribles, des fois, qu'il va falloir assumer. Donc on est dans ce moment-là. Et c'est toujours un peu tendu, car les rapports de force humains jouent. Il y a des gens qui vont être dépossédés d'un bout de travail qui ne va pas être fini, parce qu'on ne peut pas tout faire. C'est toujours comme ça. Généralement, en même temps, ça permet pour ce qui va se finaliser de le faire aller plus loin. C'est-à-dire dans les choix, il y a des choses qui vont plus loin que peut-être qui ne serait pas arrivé si on menait tout de fond. Bon, voilà, on est dans cette phase-là. Alors maintenant, sur cette masterclass, d'abord, c'est la volonté d'appeler ça une masterclass, parce que ça fait peut-être un peu prétentieux, etc. Et en fait, la FEAR, avec son directeur, avec Dominique Trichet, la réflexion qu'on a entre les formations longues et là où les formations courtes entre deux promotions, c'est de faire en sorte que les formations courtes qui sont ouvertes à l'ensemble de métiers et au sens large du terme, soient d'un très haut niveau. Donc avec des problématiques et des personnes, portant assez haut. Voilà. On n'est pas dans un apprentissage. Notre volonté, d'accord, elle est de poser la question pour ceux qui suivent cette formation, ce temps d'échange, à être confronté à un haut niveau de questionnement et plus qu'à une transmission, à une véritable échange intellectuel entre le pilote, en l'occurrence Jacques Rémus, en l'occurrence, qui se pose lui-même en tant qu'artiste des questions et voire des prospectives, avec effectivement un matériel humain qui est là pour capter, pour entre guillemets apprendre, etc., réaliser, et qui pousse, voilà, c'est-à-dire les deux se conjuguent. C'est-à-dire, Jacques Rémus n'est pas là non plus pour leur dire alors il faut faire ci, il faut faire ça, etc., etc. Il développe simultanément une prospective d'artiste qui lui est propre. Bon, c'est une masterclass, c'est en ce sens qu'on appelle ça une masterclass, c'est-à-dire que c'est un échange biunivoque dans les deux sens pour l'artiste. L'artiste, bien sûr, va repartir avec une pensée qu'il a commencé à développer et qui ne se sera pas finalisée. L'idée, c'est pas de faire par les autres une de ses idées, mais c'est d'avancer lui dans sa quête. Et en même temps, donc, ceux qui suivent cette masterclass, certes, c'est pour ça qu'il faut que notre sélection soit quand même d'un certain niveau de compétence pour pouvoir démarrer et capter ce que cet artiste, l'inquiétude artistique. Quand je dis l'inquiétude, c'est pas être inquiet, c'est l'interrogation artistique que cet artiste est amené là à avoir avec les apprentis.
lequel qui est actif.
Les machines musicales réalisées au cours du stage dirigé par Jacques Rémus seront présentées au public le jeudi 20 septembre à partir de 19h à la Cité des Arts de la rue 225 Avenue des Égalades, Marseille 15e. L'entrée est libre. Renseignements sur le site www.fair.org FAIAR ou bien par téléphone au 04 91 69 74 67.